L'épopée de Johnny Manziel se poursuit ce soir à Ottawa. Intercepté 4 fois par les Tiger Cats de Hamilton, le nouveau quart des Alouettes s'attaque maintenant au meneur de l'Est, le Rouge et Noir d'Ottawa. Après avoir laissé filer une avance de 24 points en deuxième demi contre une recrue au poste de quart la semaine dernière à Toronto, la défense de Noel Thorpe ne voudra pas se faire jouer le même tour par Manziel et ses oiseaux. Alouettes, Rouge et Noir, en direct d'Ottawa, au réseau Cogeco.
Le football des Alouettes. Au réseau Cogeco, c'est le football des Alouettes de Montréal. Retrouvons à la description Jean Saint-Onge et à l'analyse Steve Charbonneau.
Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à Ottawa. Quel beau stade. Steve Charbonneau, chaque fois que je viens, j'en reviens pas parce que je suis venu au vieux stade, au vieil aréna. Ils ont tellement fait un travail de reconstruction, de rénovation exceptionnel.
C'est fantastique. Les loges, c'est vraiment de toute beauté. Les estrades, les concessions, le terrain, puis c'est l'ambiance aussi que on est collé sur des buildings. À notre gauche, là, il y a un édifice à condo. Il y a des restaurants, c'est rempli. Écoute, ça vient revitaliser tout ce petit quartier-là, là. À l'époque, je me souviens quand je jouais, là, il n'y avait pas grand-chose ici. Maintenant,
c'est le même rock'n'roll, ça a l'air.
Ah oui, puis maintenant, c'est vivant, là, c'est fantastique.
Est-ce que ce sera vivant sur le terrain aussi? Écoute, j'ai jamais vu une équipe de football apporter autant de modifications par la force des choses, quelquefois, par choix à d'autres occasions. Là, on nous a présenté sur la feuille d'alignement le retour de Philippe Gagnon sur la ligne à l'attaque. Moi, je vais le croire quand je vais le voir. J'ai assisté à 3 séances d'entraînement cette semaine. Puis, il a pris des... Oui, il s'est entraîné, mais pas avec l'équipe numéro 1. Donc, je pense pas qu'il joue beaucoup, mais ça a l'air qu'il va être en uniforme. Ouais. Et on vient nous donner ceux qui ne seront pas en uniforme. Carl Knox, le secondaire, et Tommy Campbell, le demi-défensif, qui est ennuyé par une blessure à la cuisse. Ça veut dire que tous les changements, ou à peu près, c'est du côté de la défense. Du côté des Alouettes, oui, il y a eu les changements par choix, la transaction pour Manziel, toutes les permutations sur la ligne à l'attaque. Il y a les blessés. Et un des sujets qui est revenu souvent cette semaine, c'est est-ce que les gars sont déjà fatigués? Est-ce qu'on s'entraîne trop?
Oui. C'est en fait, c'est ce qu'on a cru comprendre de plusieurs entrevues là, au cours de la semaine. C'est que ça arrive souvent avec des entraîneurs qui arrivent des rangs américains le nombre de joueurs disponibles est beaucoup plus grand que les joueurs qu'on a ici dans la Ligue canadienne. Donc, on en parlait hors ronde, c'est que c'est l'équipe de pratique, normalement, c'est une équipe qui ne voyage pas avec l'équipe. C'est une équipe...
Ils sont juste là pour faire des faire-valoir.
C'est des sacs à frapper dedans, dans le fond.
J'essayais de le dire de façon polie, mais écoute, tiens...
Ah non, t'es un punching bag, carrément. Mais ici, dans les Canadiennes, l'équipe contre qui tu pratiques est aussi sur le terrain le week-end avec toi. Donc, tu te brûles un envers l'autre, en fait.
T'as beau avoir 9-10 gars sur l'équipe de réserve qui s'entraînent.
C'est ça. Puis avec la température qu'on a connue, il a fait chaud.
Et au stade olympique, il faut que tu augmentes ça de 3 ou 4 degrés parce qu'à l'intérieur...
Ça respire pas. Oh. Et donc, le niveau d'humidité, puis tout ça, c'est vraiment chaud. Et les gars, ils travaillent. Puis je comprends qu'il y a des nouveaux joueurs qui sont là, qui ont besoin des répétitions. Il y a besoin de pratique. On a besoin de temps pour aller chercher cette cohésion-là et cette communication-là qu'il doit y avoir entre un carrière et ses receveurs, ou cette chimie-là qui se développe avec le temps, ben c'est avec les pratiques qu'on construit ça. Mais par contre, t'as une fatigue physique qui s'installe après un bout de temps, et t'as une fatigue morale, une fatigue psychologique, une fatigue mentale. T'es plus là. Après une heure et demie, t'es brûlé, ton corps est brûlé, ta tête est plus là. Fait que tu es sur le terrain, mais tu n'es pas productif.
Ou tu es dans le meeting et tu apprends moins que tu devrais apprendre.
Exactement.
Et quelque chose à quoi tu as fait allusion au cours des dernières semaines, puis l'année dernière, quand il y a des séries de défaites, là, il commence à y avoir du pointage de doigts. on cherche des responsables. Ouais. Et d'ailleurs, quand cette discussion-là a été lancée un peu par Pierre Vercheval avec son texte sur le site de RDS. Mm-hmm. Est-ce qu'on pratique tôt? Certains se sont dit, bon, ben, est-ce que c'est une excuse? Est-ce qu'on veut rejeter la responsabilité sur les entraîneurs? Et là, à un moment donné, il faut que les gars se prennent en main. Et on va écouter Patrick Lavoie qui dit, on lui a demandé qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter justement de se pointer du doigt.
Continuer à y croire. Première des choses, faire confiance au processus. Ça, c'est la première chose. La victoire est importante, mais le processus est important. Je pense que quand un coach disait tout le temps, il dit une mentalité gagnante, ça ne veut pas dire qu'on va gagner à tous les matchs. C'est une mentalité que tu vas te préparer comme un gagnant, tu vas perdre comme un gagnant, puis tu vas réagir comme un gagnant aussi. Puis je pense que là, c'est ça qu'il faut développer. Puis si ce n'est pas salé, ce sera l'année prochaine. On a l'occasion de créer quelque chose ici. Je pense qu'on. Je ne veux pas dire qu'on est parti from scratch l'année passée, mais tu sais, je pense qu'il y a eu beaucoup de changements cette année. Il y a un nouveau coach, une nouvelle mentalité. Je pense qu'il faut continuer à builder là-dedans. C'est ça qui est important, c'est de continuer l'arrow up. Puis c'est ça qu'il faut faire en ce moment. Là, on perd des matchs. Je pense qu'il faut mieux se comporter, faut mieux se préparer pour les matchs, puis avoir une meilleure, peut-être, énergie sur le sideline, puis agir plus comme des gagnants, même si on perd le match.
J'ai eu l'impression qu'il avait mis l'emphase, faut perdre comme des gagnants, puis après ça, là, on perd des matchs, puis il faut se comporter. J'ai l'impression que la dernière défaite, lui, il l'a dans la gorge.
Là, ça me fait penser, quand tu joues au football, t'es tout jeune et que les parents et les entraîneurs te disent, c'est pas de gagner qui est important, c'est de participer. Ça me fait penser
minute,
à ça.
Non. Le processus et la participation, c'est pas la même chose.
Non, mais le processus, oui, mais ça s'installe, ça. Cette mentalité de gagnant-là, c'est bien beau l'avoir individuellement, mais quand t'es pas tout seul sur le terrain, fait que, veux pas, là, chaque équipe a une personnalité distincte. C'est constitué de 42 ou 46 joueurs différents qui viennent de partout sur la planète. Mais la personnalité de cette équipe-là est développée avec le temps, les gars qui se côtoient, les gars qui se parlent, les gars qui apprennent à se connaître. Parce que tu peux jouer une saison complète dans le même vestiaire, là, t'es toute la saison, puis tu connais pas le nom, le prénom d'un receveur parce qu'il est de l'autre bord, parce qu'il est à l'attaque.
Combien de fois on jase de l'époque où tu jouais et tu dis, voyons, comment qu'il s'appelait mon secondaire? Et c'est pas parce que tu as eu trop de commotion, là.
Non.
J'ai pu tester dans d'autres domaines de ta vie. Tu te rappelles très bien des noms. Ouais. Mais l'attaque puis la défense.
C'est deux équipes complètement séparées. On se voit pas beaucoup dans la semaine. On se voit sur le terrain. Et c'est à peu près tout. Fait que, tu sais, dans le fond, cette synergie-là ou cet esprit d'équipe-là se développe des fois dans des moments que tu t'en attends pas. Je pense en 2005, quand il y a eu la grosse panne d'électricité à Toronto, c'est la première fois qu'on passait une semaine ensemble, les boys, on a appris à se connaître. Donc, au lieu de jouer pour tes statistiques, au lieu de jouer pour toi-même puis essayer de sauver ta job, ben tu joues pour les autres. Tu viens que tu joues pour tes chums, sont devenus. Fait que nous, ça a changé notre saison en 2005, puis on a gagné la Coupe Grey à cause de ça. Fait que c'est ça qu'il faut. Il faut créer cette ambiance-là. Puis c'est facile pour un gars à défensive de pointer du doigt quand ça va mal, de pointer du doigt d'un gars à l'offensive parce qu'il côtoie pas, il connaît pas. Puis tout ce qu'il sait, c'est que le gars. Exemple, on donne des noms. Ernest Jackson qui sous-performe. C'est facile pour dire, ben, Jackson a échappé deux ballons la semaine passée. C'est humain avec un grand H, tout le monde fait ça. Quand ça va pas bien, on donne, en fait, on remet la responsabilité à quelqu'un d'autre. C'est de l'autoprotection, on protège notre job. Sont fiers, les gars, là, sont fiers. Puis il y en a gros là-dedans qui sont pas capables, tout simplement pas capables de dire, regarde les boys, excusez, là, j'ai pas fait ma job. Il y en a gros qui sont pas capables de faire ça parce qu'ils ont jamais eu à le faire. Ils ont toujours été des vedettes dans leur programme. Puis là, d'un coup sec, ça va mal pour une première fois. Puis il faut qu'ils prennent une responsabilité qu'ils ont de la misère à le faire. Mais
as-tu aimé la réaction de Johnny Manziel?
Ben certainement. C'est un gars qui, honnêtement, pour 25 ans, il est mature. Il a pris cette... Puis c'est correct. Sais-tu qui a fait ça aussi à un moment donné dans sa carrière? Mike Pringle. Mike Pringle, à un moment donné, il a tout pris la pression sur lui. Au complet. Il dit, regarde les boys...
Parce que c'est un personnage, le Pringle.
C'est un personnage.
C'est tout un joueur de football, mais ça l'est, c'était pas nécessairement le plus facile.
C'est ça. C'est un personnage. Moi, je me souviens très bien, un match, on s'en allait, si on gagnait ça, on s'en allait en finale de l'Est. Et Pringle, juste avant, dans les médias, il avait dit, « Gars, les boys, la seule façon qu'on peut remporter ce match-là, c'est si on me donne le ballon une fois sur deux. » Puis, il a pas performé ce match-là. Il y avait plusieurs échappés et tout ça. Mais en même temps, lui, ce qu'il voulait faire, ben, je l'ai compris par après parce qu'on a eu des rencontres.
Sur le coup, ça
a... On a eu des rencontres. Sur le coup, moi, j'ai trouvé ça très difficile. Mais ce qu'il voulait faire, c'est enlever la pression des épaules des autres, de sur les épaules des autres. parce que lui, il se sentait capable de prendre cette pression-là, puis il sentait que les autres joueurs avaient de la difficulté à dealer avec cette pression-là. Peut-être que c'est ce que Menzel essaie de faire aussi. Regarde, les boys, je vais la prendre, la responsabilité. Et là, ben, peut-être que les gars, ils vont se présenter, ils vont être un peu plus loose, un peu plus relax. Parce que là, quand tu joues, là, puis t'es crispé comme ça, parce que t'as peur à ta job, t'as peur de te faire battre. Tu sais, les gens réalisent pas, là. Mais c'est la ligne défensive, là. Faut juste que tu gagnes. Tu sais, c'est une bataille un contre un.
C'est un combat de lutte.
Faut juste que t'en gagnes une coupe de plus que lui. Tu sais, tu peux pas toutes les gagner. C'est impossible. Faut que tu sois capable aussi de tourner la page après chaque jeu. Tu sois capable de tourner la page. Mémoire courte. Ça, je suis bon là-dedans, la mémoire courte. Fait que les gars, tu sais, les gars sont là. Je pense que je ne sais pas ce qu'on va voir aujourd'hui. Est-ce que Menzel, lui, après avoir été dans les médias et avoir pris toute cette responsabilité-là, si lui, il est capable de se revirer de bord puis de performer aujourd'hui, ça va monter le niveau de performance de tout le monde aujourd'hui. C'est clair, clair, clair.
On a entendu Patrick Lavoie nous parler d'y croire et de se regrouper et de croire au processus, donc de se préparer adéquatement. Et ça veut dire, est-ce que se préparer adéquatement, c'est justement passer 2 heures par jour sur le terrain? Il n'a pas osé se prononcer là-dessus, mais s'il y en a un qui aurait eu le droit de se plaindre, c'est peut-être lui, parce que lui, il n'y a pas de réserviste derrière lui, donc il prend à peu près toutes les répétitions au poste de centre arrière, et en plus, il joue sur à peu près toutes les unités spéciales. Bref, dans les 100 degrés Fahrenheit du stade olympique, il sue pas à peu près, il doit avoir perdu 10 livres depuis. Mais néanmoins, quand est venue la question, est-ce que vous entraînez trop, voici ce qu'il nous a répondu.
Je pense que Coach Sherman et le coaching staff veulent voir des choses. On a un nouveau carrière qui est ici aussi, qui a besoin de répétition, qui a besoin de voir le field un peu plus, excusez-moi l'expression, mais je pense que c'est à eux de leur demander ça. Nous, on est là pour exécuter, on n'est pas là pour critiquer qu'est-ce qui se passe ou s'il y a trop de rep ou pas assez ou fait ici ou changer. T'sais. Si on commence à faire ça comme joueur, c'est là que ça s'en va par en bas. C'est là qu'on va perdre le vestiaire, c'est là qu'on va perdre la relation qu'on a avec les coachs, puis on ne veut pas faire ça. En ce moment, on veut être un ensemble puis continuer à travailler dans la même direction. Moi, j'étais dans une équipe où on était 2-16 à la fin de l'année, puis on a toujours travaillé dans la même direction, puis on a toujours continué à travailler fort, puis l'année d'après, on est allé à la Coupe Grey, puis l'année d'après, on l'a gagné. Fait que, tu sais, c'est pas commencer à dire que c'est ça le problème, puis ou soit on en fait trop, soit on en fait pas assez, qu'on va régler des choses en ce moment, puis ce serait pas la bonne solution de commencer à dire qu'on pratique trop.
Donc, il nous laisse entendre qu'il pratique trop, mais qu'il s'en plaindra pas, lui, parce que pour l'équipe, ça prend ça.
Mais oui, puis ce que j'ai aimé, par contre, il devrait faire de la politique, parce que il a répondu sans répondre, parce que il dit « on commencera pas à se revirer contre les coachs ». Mais il l'a dit, ça, cette phrase-là, là, c'est très important, parce que je me souviens, moi, Rod Ross. Tu te souviens de Rod Ross?
Oui.
Un autre.
Un coordonnateur défensif que les joueurs adoraient.
Oui.
Il est devenu entraîneur-chef des Alouettes. Au moment.
Pourquoi? Parce que là, il a voulu faire ce que lui connaissait le mieux. C'est-à-dire de pratiquer. Pratiquer, c'est correct, mais trop long. C'était long. On était épuisés. On était 7 victoires, 1 défaite. Puis à un moment donné, on était brûlés. 7 victoires, 1 défaite. Mais on était brûlés physiquement. On était plus là. Puis on a perdu les 8-9 dernières. Il a perdu sa job aussi. C'est Jim Popp qui est venu
finir
la saison. Mais c'est un peu cette mentalité-là. Il faut que les coachs américains s'ajustent. Puis en plus, là, tes punching bags sont souvent tes gars. Excuse-moi. Tes gars qui sont sur l'équipe de pratique, qui est de l'autre côté, là, en fait. L'autre côté de la ligne de mêlée. C'est souvent tes joueurs d'unité spéciale. C'est tellement important, les unités spéciales.
Il
faut que tu les gardes en santé, ces gars-là. Parce que souvent, souvent les blessures, là, c'est pas nécessairement dans les matchs qu'on se blesse, c'est dans les pratiques. C'est des changements de direction. C'est sûr qu'au maintenant, un peu moins, parce qu'ils pratiquent sans épaulettes maintenant.
Ben, c'est uniquement depuis cette année qu'il n'y a plus d'épaulettes
la force
dans
des syndicats.
Toutes les séances d'entraînement.
Oui, mais c'est, dans notre temps, on frappait tout le temps. Fait qu'on se blessait souvent en pratique. Fait que tu arrives dans le match, on dit toujours que le dernier jour que tu es à 100%, c'est le premier jour du camp d'entraînement. Après ça, tu es toujours en train de récupérer d'une blessure. Fait que si en plus, à pratique, tu te frappes dedans puis tu cours comme puis à grosse chaleur.
Toi, c'était déjà 18 matchs,
ouais,
quand
ouais,
tu jouais. Sur les 20, les 19 semaines, parce que c'était juste une semaine de congé, il y en a combien où tu n'allais pas voir le thérapeute de la semaine? Combien de semaines?
Aucune.
À toutes les semaines, il fallait que tu passes.
À toutes les semaines, tu es là. Tu as des résonances magnétiques. Pas résonances, on avait des simulations. Des simulations, là, comme
électrique,
électriques. Oh, oui. On faisait ça, de la glace, des bains de glace, des étirements. On a souvent des élongations musculaires, des choses comme ça. Puis on n'a pas le choix. Parce qu'il faut. D'un, faut t'es. Ben, c'est sûr que quand t'es un vieux de la vieille comme j'étais, ben.
À la fin, à Edmonton.
Oui. Puis quand tu sais que t'as quelqu'un qui te pousse dans le derrière, ben ces blessures-là, tu t'en parles moins. Ben là, tu y vas plus. Là, tu y vas plus parce qu'une blessure peut te garder sur les lignes de côté, puis le nouveau arrive. tu veux pas y donner d'opportunité, mais c'est la réalité du sport. Mais tout ça pour venir que si c'est ajouté cette semaine, puis que les gars, ils voient que...
Oui, parce que il y a eu un entraînement plus court, l'autre a été plus léger. Oui. Bref, il a entendu ses joueurs.
Bien, puis ça, c'est important. C'est important. Il y en a un qui gagnait pas mal à Montréal, tu te souviens, c'est Don Matthews. Puis il y a des pratiques, lui, il arrivait le matin, puis il disait, « Hey, les boys, si vous me garantissez une victoire en fin de semaine, je vous envoie chez vous. » Il pratiquait pas, là.
Pardon? Les joueurs qui décidaient s'ils pratiquaient ou pas?
Dit, « Vous me garantissez une victoire en fin de semaine, puis je vous renvoie chez vous. » Les gars, il dit, « On la garantit. » Puis ça retourne à cheville.
Si vous gagnez pas, ouais, mais si vous gagnez pas, il arrive quoi?
Je sais pas si c'est arrivé dans le temps de Matthews. À chaque fois qu'elle m'a dit une garantie, je pense que les gars ont gagné. Fait que, justement, parce qu'il s'attendait que s'il était pour la perdre, ça arriverait plus. Mais, fait que, tu sais, la pratique, c'est important. Mais il faut que les gars soient reposés mentalement aussi, puis il faut qu'ils soient capables de récupérer avec le blessure, puis tout ça. Puis...
Dans sa réponse, Patrick, il faisait allusion notamment aux répétitions que les nouveaux joueurs ont besoin. Ouais. Naturellement, en faisant une allusion directe à Johnny Manziel. Et Manziel, il sait qu'il a besoin de répétitions pour, à pleine vitesse, pour évaluer. Se mettre sur la même page, comme tu le disais, avec ses receveurs, mais également les défenses adverses, à quel point. Et il a admis, parmi les nombreuses choses qu'il a admis au cours de la semaine, ça a été une belle semaine d'humilité dans son cas. Il est le premier à dire qu'il est rouillé. On va l'écouter.
I think just some rust. I think it's, you know, my eyes need to be in the right place. My feet need to be ingrained with where I'm looking and be ready to throw the ball. And I felt like last week I was a little bit sloppy in some of my feet. You know, I feel like after we had pressure come through a little times, I may have been a little skittish on some of the pressure stuff, which, you know, caused me to have bad feet. And, you know, I'm continuing just to work on the little things and work on the details because it is going to take me some time to get back up to full speed and where I feel like I want to be.
Ça va prendre du temps avant de retrouver la vitesse de jeu et de me rendre là où je veux être. Et sans entrer trop dans les détails techniques, et sans dire qu'il a été paresseux, mais il a utilisé le terme « sloppy mm-hmm. ». Mon jeu de pied n'était pas à la hauteur. Il dit, plusieurs fois, quand il y a eu de la pression et tout ça, j'ai pas réagi de la bonne façon. Il dit « je dois être meilleur que ça dans ces ouais. aspects-là ».
Ben, je vais te dire, moi, son jeu de pied, là... Je parlais de ça avec un gars aujourd'hui à game de soccer de ma fille, puis il me dit, écoute, oui, il a lancé beaucoup d'interceptions, puis oui, il avait beaucoup de pression, puis tout ça, mais tabarnouche qui est excitant à voir pareil. Fait que c'est son jeu de pied, moi, je l'ai trouvé super bon, mais c'est peut-être un manque de précision, puis de mauvaise lecture. Tu sais, il y a un joueur de plus à la défensive de l'autre côté, des fois, il arrive pas exactement où tu penses qu'il va être. D'après moi, c'est juste l'expérience de lire la défensive adverse ou les défensives propres puis, à la CFL.
Parce que lui, ils n'ont pas vu venir des angles qu'ils arrivent maintenant, parce oui. que le terrain étant plus large, ça, le demi de coin qui blitz, là, il arrive presque dans ton angle mort oui. si tu es dans une automobile. Là. Tu peux ne jamais le voir arriver si tu n'es pas habitué de regarder dans cette direction-là. Puis il y a vraiment des ajustements à faire. Puis comme il n'a pas joué en match, il n'a pas la vitesse du genre, lui. Faut parler des méchants aussi.
Ouais.
Rouge et noir, depuis qu'ils sont dans la ligue, on pourrait les appeler les bêtes noires. En tout cas, pour ouais. ce qui est des Alouettes. Parce que ouais. les Alouettes ont balayé la première série annuelle. Puis depuis ce temps-là, c'est 9 victoires en 10 matchs pour le rouge et noir. 5 d'affilée. Trevor Harris, il est bon. Mm-hmm. Mais contre les Alouettes, tabarouette, il est très, très, très bon. D'ailleurs, lors du dernier match, ils ouais. avaient déculotté... presque lui.
28-18.
C'est ça, le nombre de verges de Trevor Harris, c'était 342 ouais. verges, 3 passes de toucher, pas d'interception. Mm. C'est tout un test pour la défensive amochée des Alouettes.
C'est un gros test, surtout que Ottawa à domicile, sont 2 victoires, une défaite contre Calgary. qui est la meilleure équipe dans la ligue. Fait que c'est quand même pas négligeable, mais les Alouettes, eux autres, à l'étranger, c'est une victoire et deux défaites. Ils arrivent ici dans un stade qui va être bondé de monde, un environnement, une ambiance, c'est hostile. C'est, puis une équipe qui, comme je disais avec Yannick plus tôt en onde, c'est que eux autres, Ottawa, là, ils l'ont pas pris la défaite contre Toronto la semaine dernière.
Écoute, c'est une des huit plus grosses remontées de l'histoire de la Ligue canadienne. C'est la deuxième plus grosse remontée contre une équipe d'Ottawa. Puis là, on remonte aux Rough Riders et tout ça.
C'était 24 points d'avance.
Au troisième quart.
Oui. Puis ils ont laissé Toronto marquer 22 points au quatrième quart. Donc, eux autres, il faut qu'ils partent fort. Qu'ils aient un bon début de match. Et si ça arrive, il faut que Montréal soit capable de produire en offensive. Et c'est ce que je trouve qu'ils n'ont pas fait depuis le début de la saison. Ils ont de la difficulté à même traverser le terrain. Donc, on va voir, mais effectivement, Harris, c'est un gars qui a des outils. Il a des outils.
Puis ils ont une attaque qu'on peut qualifier de traditionnelle. Un bon porteur de ballon en Powell,
oui.
Des bons receveurs de passe. Harris n'a pas à tout faire lui-même. Il a des bons outils. On va écouter Nicolas Boulay qui nous parle de l'attaque du Rouge et Noir.
Ah, mais c'est un offensif qui justement essaie de compromettre tes yeux. Donc, va amener beaucoup de motions, vont essayer de beaucoup de play action pass. Donc, des jeux qui commencent, qui ont l'air d'une course et que ça va être une passe. Donc, c'est beaucoup de petits jeux comme ça qui font en sorte que ça met un petit peu à l'épreuve ta défensive. Voir justement s'ils sont sharp dans leurs assignations et tout ça. Puis ça fait aussi que ça l'ouvre des trous à certaines places dans notre défensive, dépendamment des jeux qu'on joue.
Donc, ça déguise un peu et on essaie d'attirer beaucoup de feintes.
Mais en même temps, quand tu joues du bon football discipliné, puis tu connais ton job et que tu t'occupes juste de ton job, t'en fais pas plus qu'il faut en faire, ben, puis tu connais bien tes responsabilités, tu connais bien ton livre de jeu, la communication entre la tertiaire se fait bien, c'est fluide, il devrait pas avoir d'erreur à ce moment-là, c'est du on teste à chaque jeu, on va te tester physiquement, on va tester tes habilités. Puis là, ben, le dernier match,
ouais, mais
la tertiaire l'a mangé.
C'est ça, et tu l'as mentionné dès le début de ta réponse. La communication entre les joueurs, et ça est loin d'être évident parce qu'il va en avoir des changements aujourd'hui comme jamais du côté de la défense montréalaise. John Bowman est blessé pour plusieurs semaines. C'est donc Ventrell McMillan qui s'amène à sa place. Jermaine Robinson joue comme demi-défensif. Il y a un nouveau demi de coin. D'un côté, c'est Joe Rankin, pendant que Tyquan Glass en va demi de coin de l'autre côté parce que Tommy Campbell est blessé, a été retranché juste avant le match. Bref, c'est loin d'être évident. Des nouveaux gars sur la ligne défensive, des nouveaux gars sur la tertiaire. Est-ce qu'on va être capable de mettre de la pression pour donner un coup de main aux gars de la tertiaire? On écoute Nicolas Boulay, qui, je sais pas s'il croit que oui ou il espère que oui. On écoute.
On a Ventrell McMillan, justement, qui va prendre la place à John Bowman, qui attend impatiemment sur sa ligne depuis le début de l'année. C'est un gars, justement, qui est capable de mettre de la pression. C'est un gars qui est fort, il est extrêmement rapide. C'est sûr, John Bowman, tu perds un peu le leadership, tu perds un petit peu l'expérience, la sagesse là, sur le terrain. On a un gars aussi dans le milieu, Woody Barron, qui fait super bien depuis le début de l'année, autant contre la course que contre la passe. Il est capable de mettre de la pression. Il est capable justement de prendre deux gros joueurs de ligne offensive. Il me rappelle un petit peu d'un Alan Michael Cash, un peu plus jeune, tu sais. Le même genre de joueur. Donc, je suis pas trop stressé pour la pression. Je pense que ça va bien aller.
Et là, tu sais que j'ai rendez-vous avec lui au premier entraînement la semaine prochaine. Puis s'il n'y en a pas de pression, on va lui en parler. Ouais. Mais c'est vrai que ça ne sera pas évident du côté des Alouettes. On va aller en pause là-dessus. Au retour, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé partout dans la Ligue canadienne de football. Une petite semaine avec seulement 3 matchs. Et je vais te parler de cote d'écoute dans la Ligue canadienne aux États-Unis. Les Alouettes qui rendent visite au Rouge et Noir à Ottawa. Vous écoutez le football des Alouettes au réseau Cogeco.
Au réseau Cogeco, de retour au football des Alouettes. Avec Jean Saint-Onge et Steve Charbonneau.
Les Alouettes, une victoire, 6 défaites qui rendent visite aux meneurs de la section Est, le Rouge et Noir d'Ottawa. 4 victoires, 3 revers. Le Rouge et Noir qui va tenter de creuser l'écart avec les Tiger Cats d'Hamilton qui ont perdu. J'ai suscité la curiosité de Steve Charbonneau juste avant la pause en parlant des cotes d'écoute aux États-Unis. Parce que la semaine dernière, le match des Alouettes contre les Tiger Cats était présenté sur ESPN2. Des fois, c'est sur uniquement sur le web, mais là, c'était la deuxième chaîne d'ESPN. Et ils sont allés chercher 402 000 téléspectateurs. Vous allez me dire, à la grandeur des États-Unis, là, c'est pas énorme.
Non.
Sauf qu'auparavant, cette saison, le plus gros résultat, c'était 264 000. Et là, ils ont plus de 400 000. Bref, ils ont augmenté de presque 50 % juste avec la présence de Johnny Manziel. Et le chroniqueur télé qui en parlait mentionnait, a pris la peine de préciser qu'il y a deux matchs de plus des Alouettes qui sont au calendrier de ESPN2, le 18 août et le 28 octobre. Peut-être que le 18 août, la semaine prochaine, contre Edmonton, je ne sais pas si ça va être regardé, mais peut-être que le 28 octobre, à ce moment-là, Manziel aura pris son élan.
Bien, oui, j'espère. J'espère, honnêtement, c'est ce que je disais. Il faut juste qu'il y ait un petit peu. On ne veut pas nécessairement qu'il remporte ça 40-0, mais juste un petit peu d'espoir, puis qu'il soit capable de bien distribuer le ballon, connecter avec ses receveurs, qu'on essaye de le protéger un peu mieux. Puis là, on va être capable de le voir vraiment là, sur son. De sa pleine capacité ou de son plein potentiel. Mais s'il n'est pas capable de se planter les pieds, là, oublie ça. Là. Il va toujours être en poursuite, puis ça ne marchera pas. Fait que j'ai hâte de le voir. Puis,
il peut se défaire de la pression, mais il ne faut pas que ce soit obligatoire à chaque jeu.
Non, exactement. Puis ça, si je pense, honnêtement, je pense que si lui est capable de faire ça, ça va prouver qu'à chaque position, on s'est amélioré un petit peu, surtout sur la ligne à l'attaque. Puis défensivement, il faut donner un coup de main, puis il faut empêcher l'adversaire de se rendre dans zone début en partant dès la première séquence, comme la semaine passée, là.
Tu parles de la ligne à l'attaque. C'est un huitième match pour les Alouettes. C'est une huitième ligne à l'attaque. On va avoir Tony Washington, celui qui a été acquis dans la transaction avec Johnny Manziel, qui est là depuis trois matchs comme bloqueur à gauche. Philip Blake à sa place de garde à gauche. Christian Matt au centre. Au poste de garde à droite, je m'attends de voir Landon Rice, qui est l'autre gars qu'on a acquis de Hamilton. Je dis je m'attends parce que si je regarde l'affiche remise aux médias par les Alouettes, c'est Philippe Gagnon. Sauf que Gagnon a pris très peu de répétitions avec l'équipe numéro 1. Je crois qu'il est plutôt là comme réserviste. On va le voir. Mais on sait qu'il y a au moins un changement sur cette ligne à l'attaque. C'est le retour de Sean Jamieson qui était blessé, qui va jouer comme bloqueur à droite. Au football du jeudi soir, on mentionnait la remontée de Wally Buono et des Lions de la Colombie-Britannique. Ils ont effacé un retard de 10 points en deuxième demi pour l'emporter 31-23 contre les Eskimos d'Edmonton, tes Eskimos, que tu vantes uniquement quand ils battent les Alouettes. Dans ce match-là, Loulé a franchi le cap des 20 000 verges de gain dans sa carrière, 239 verges seulement dans le match, l'ancienne passe de toucher, une interception. Chris Rainey, un ancien Alouette, a marqué un toucher sur un retour de beauté. De l'autre côté, Mike Riley, 302 verges de passe, deux passes de toucher, mais il a été intercepté deux fois, et c'est peut-être là qu'est la différence. Bref, ça va se resserrer au classement dans l'Ouest, mis à part Calgary qui est parti et qui est toujours invaincu. Et hier soir, il y a les Blue Bombers qui ont battu les Tiger Cats, 29-23. Les Tiger Cats qui ont tenté une remontée et qui sont venus bien près de la réussir. Du côté de Winnipeg, Andrew Harris, 128 verges de gains combinés au sol et par la voie des airs. Les Blue Bombers, 5 victoires, 3 défaites, se retrouvent donc à égalité avec Edmonton au deuxième rang. Harris, c'est 82 verges au sol. Il a capté 4 passes. Matt Nichols, discret au poste de quart pour les Blue Bombers. 13 passes complétées en 24 tentatives pour 180 verges de gains. De l'autre côté, Jeremiah Masoli, 17 en 27 pour 251 verges. Il a lancé une passe de toucher et aucune interception. Alex Green a inscrit 2 touchés sur des courses d'une verge du côté des Tiger Cats. Brandon Banks a marqué sur une passe de 15 verges. Au total, il a capté 6 passes pour 106 verges. Mais ils ont manqué de temps, les Tiger Cats, si bien que ça donne encore une fois des chances aux Alouettes de rester dans la course, aussi incroyable que ça puisse paraître. Et s'ils l'emportent ce soir, ils se retrouveront en excellente position dans la course aux séries avec tous ces matchs qui restent contre les équipes de l'Est. Bref, tout est possible.
Oui, effectivement, il faut garder espoir.
Là-dessus, on va aller en pause. Au retour, le botté d'envoi de ce match entre les meneurs de la division Est, le Rouge et Noir d'Ottawa, et les Alouettes en direct d'Ottawa. Vous écoutez le football des Alouettes au réseau Cogeco.